Pour que nature vive.
Pour que nature
vive. Pour que nature vive.
Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète.
Le vivant et notre planète.
Série spéciale Océan. Une odyssée jalonnée de légendes et de récits d'aventures. Le Muséum vous propose de prolonger l'exploration de l'océan avec une sélection de récits. Les explorations sous-marines, par Edmond Perrier. Livre 1, Voyage du Challenger.
Jusqu'à la collecte d'animaux marins à 3000 mètres en 1869 par le Porcupine, l'hypothèse d'une vie dans les profondeurs semblait impossible. Après cette incroyable découverte, le gouvernement anglais décide de financer une grande expédition autour du monde pour étudier les fonds marins. Le Challenger, un bâtiment de guerre réarmé pour l'occasion, quitte l'Angleterre fin 1872. Le navire Challenger quitte à Portsmouth le 21 décembre 1872. Il ne devait revoir les côtes d'Angleterre que le 24 mai 1876, 3 ans et demi après les avoir quittés. On se dirigea d'abord vers le sud, sans s'inquiéter du mauvais temps qui assaillit le navire au premier jour de son voyage. Suivant les plans arrêtés dès l'origine, la véritable exploration ne devait commencer qu'aux Canaries. Jusque-là, c'était une entrée en matière, une introduction, que l'on utilisa pour achever de se rendre maître de l'outillage et se préparer ainsi complètement au travail sérieux. Le 3 janvier 1873, on s'arrêtait à Lisbonne pour se refaire des premières fatigues du voyage, et le 4 janvier seulement, on se remit définitivement en route. Dès les premiers dragages, les richesses abondent sur le Challenger. Les filets disposés pour la pêche pélagique ramènent tous les hôtes élégants qui nagent dans les pleines mers. Les ptéropodes, ces papillons des océans dont la marche rapide et saccadée au milieu des eaux rappelle en effet le vol capricieux des lépidoptères, les vélèles, les porpites, les physalies aux formes gracieuses et aux riches couleurs, et enfin ces magnifiques siphonophores qui laissent pendre dans la mer, au gré du hasard, leur superbe guirlande aux 1000 pans de loques brillamment colorées. Les dragues ne sont pas moins généreuses. Parmi les invertébrés, si abondants au fond des mers, elles apportent des éponges siliceuses, les euplectelles, qui, chose singulière, ont comme leurs sœurs les yalonemas, des commensaux qu'on trouve toujours en leur compagnie. De même que la torsade de spicules des Yalonema est presque toujours entourée à sa base par une colonie de corallières, de même, la cavité centrale des euplectelles est constamment habitée par un, et souvent même deux, crabes, qui partagent avec leur jolie hôtesse la nourriture que la communauté a pu capturer. Ce sont aussi de belles étoiles de mer, des bryozoaires d'une beauté remarquable, des asthénosomas nouvelles, avec leurs proches parents, les formosomas. Enfin, les ombellulaires, jolis polypes dont les calices violets viennent s'épanouir en un charmant bouquet à l'extrémité d'une longue tige à axe calcaire. Mais la plus intéressante capture faite par les dragues du Challenger, des premiers jours de son expédition, fut celle de nombreux poissons retirés, à n'en point douter, du fond de la mer. Les expéditions précédentes n'avaient ramené que fort peu de ces animaux. Les dragues avaient l'ouverture trop petite pour laisser ces êtres vifs et peureux y pénétrait sans défiance. De plus, elle se remplissait rapidement de vases et ne pouvait plus ensuite donner asile à de nouveaux hôtes. Cependant, on citait de rares exemples de pareilles captures. Mais on supposait qu'elles avaient été faites accidentellement par la drague au moment de son retour et assez près de la surface. C'était donc à des animaux pélagiques et non à des poissons abyssaux qu'on avait affaire. Le Challenger résolut la question dans un sens tout à fait opposé à cette opinion. La drague, bien plus grande que celle qu'on avait utilisée jusque-là, rapporta une multitude de poissons. Chez tous, la vessie natatoire s'était dilatée et, crevant la muqueuse buccale, avait fait saillie par la bouche. Les yeux, démesurément dilatés, sortaient des orbites. Ces phénomènes étaient certainement dus à l'élasticité de l'air contenu dans la vessie natatoire. Cet air, soumis à une pression considérable dans les grandes profondeurs, rencontre, à mesure qu'il s'élève, des pressions de moins en moins fortes. Aussi doit-il augmenter de volume et entraîner une dilatation exagérée de la mince vessie qui le contient. Cette explication, la seule possible, démontre donc la présence, au fond de la mer, d'une organisation bien supérieure aux zoophytes, aux crustacés et aux rares petits mollusques qu'on y avait jusque-là rencontrés, et qu'on croyait être les seuls qui puissent acquérir un grand développement numérique dans de pareilles conditions. Marchant ainsi de découverte en découverte, le Challenger descendit le long de la côte de l'Afrique, draguant par des profondeurs de 2000 mètres. Mais, arrivé à Madère, il tourna brusquement à l'ouest, en traversant l'Atlantique que, d'après les instructions de l'amirauté anglaise, il devait sillonner 4 fois dans toute sa longueur afin d'en faire connaître l'exacte topographie. Vers le milieu de l'océan Atlantique, les profondeurs augmentèrent rapidement, se tenant en moyenne entre 4000 et 5600 mètres. Mais cette profondeur est loin d'être partout la même. Le fond de l'océan n'est pas, comme on l'avait cru longtemps, une vaste plaine sous-marine, dont les montées et les descentes sont si douces qu'on pourrait aller en voiture et sans serrer les freins d'Irlande à Terre-Neuve. Non. La topographie des terres immergées est aussi compliquée que la topographie du domaine des hommes. On y trouve des chaînes de montagnes, des plateaux, des vallées, des collines escarpées et des coteaux qui vont mourir en pente douce dans de grandes plaines. On peut se faire une idée de la différence d'altitude des divers points de l'océan en consultant les tableaux de sondage du Challenger. La profondeur moyenne de l'Atlantique est d'environ 4800 mètres. Mais la sonde a pu atteindre dans cet océan l'énorme profondeur de 7137 mètres, c'est-à-dire que si le Mont Blanc était englouti dans cet abîme, la surface de la mer serait encore à 2327 mètres au-dessus du géant de nos montagnes. Pendant les 4 traversées de l'Atlantique, des Canaries aux Antilles et à la Nouvelle-Écosse, des Bermudes aux Açores, des Açores à la côte du Brésil et enfin de San Salvador au Cap de Bonne-Espérance, les dragues ne restèrent pas inactives. Et les récoltes précieuses s'accumulèrent sur le pont du Challenger, fécondes en enseignements nouveaux pour la science. Du fond des abîmes, on retirait d'étonnants crustacés aveugles. D'autres, dont les pattes grêles, semblables à celles d'une immense araignée, s'étaient démesurément allongées pour permettre à l'animal de palper les objets qu'il ne pouvait pas voir. La théorie enseignait que les animaux des grands fonds doivent tous être aveugles. Qu'aurait-il fait d'organes visuels dans ces profondeurs où les papiers photographiques n'accusent pas la moindre trace de lumière ? L'argument semblait péremptoire. Aussi, l'étonnement fut grand quand on ramena, de ces mêmes abîmes, des crustacés possédant au contraire des yeux énormes, recouvrant toute la région céphalique. Comment ces yeux pouvaient-ils être utiles à leur possesseur? Nous rechercherons plus tard s'il est possible de répondre à cette question.
Extrait du livre « Les explorations sous-marines » par Edmond Perrier, livre 1, Voyage du Challenger, édité en 1891 par la librairie Hachette et Compagnie, à Paris. Lecture par Paul Bouffartigue. Source gallica.bnf.fr, Bibliothèque nationale de France. Pour que nature vive. Un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective. Avec le soutien du Crédit Agricole et de la Financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée « Pour que nature vive » qui a inspiré le titre de ce podcast. «